Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait, enfin il était temps, du deuxième roman de Françoise Colliot qui s'appelle Le cahier de bonne maman. Il y a un petit bout de temps, déjà, je vous avais lu un extrait des Souvenirs de Tati Monique. Alors, si vous ne l'avez pas encore entendu, ce podcast, si vous arrivez tout juste, c'est normal. Ça date d'il y a un petit bout de temps. Je suis sur l'article, je cherche la date, mais je ne la trouve pas. Ah! Je ne sais plus. Ça date de mai 2017, voilà, j'ai trouvé. Et à l'époque, Tati Monique, Les Souvenirs de Tati Monique, c'était une série que Françoise Colliot écrivait sur son blog. Régulièrement, elle publiait des épisodes. Et puis, les choses ont fait leur chemin. Elle a finalement rassemblé tous ses souvenirs en un roman qu'elle a auto-publié. Et Le cahier de bonne maman, c'est la suite des souvenirs de Tati Monique. Alors, dans Tati Monique, Monique quitte Paris pour venir en Provence chez sa bonne maman, et là elle découvre les joies et le plaisir et l'amour multiple, etc., etc. Et puis bonne maman va lui laisser un cahier où elle lui parle de ses souvenirs à elle. Et alors il se trouve que, figurez-vous, dans cette famille, cette manie de prendre du plaisir à plein et de partager l'amour, ça se transmet de femme en femme, enfin pour être plus exact, toutes les deux générations, c'est-à-dire de bonne maman, la mère on zappe, et la petite fille Monique, hop, ça revient. Et vous verrez que ça revient encore et encore et encore, c'est pas fini, hein, puisque dans Monique, on découvre que Monique elle-même laisse ça pour sa petite fille. Bref, je ne sais pas si vous me suivez. Donc du coup, le cahier de bonne maman, toute autre époque, hein, on n'est plus en 1974, on est en 1919. En gros, bonne maman, donc Rosalie, est devenue marraine de guerre pendant la guerre 14-18 de Pierrot. Et puis, lors d'une permission, elle n'a rien dit à sa famille, elle l'a rejoint pendant sa permission. Quand elle est revenue, elle s'est fait grosso modo renier par sa famille. Donc elle a écrit une lettre désespérée à son Pierrot qui lui a dit « Viens au village, tu vas voir Nathalie, elle va s'occuper de toi et tout va bien se passer. » Donc elle va voir Nathalie et tout se passe bien. Et elles attendent toutes les deux leurs amoureux respectifs. Et puis en attendant leurs amoureux respectifs, du coup elles se rapprochent. Et puis elles découvrent un petit peu les joies de l'amour saphique aussi. Et enfin ça y est, l'armistice est là et elles peuvent enfin retrouver leur chair et tendre. Et c'est là, on est au tout début du roman « Le cahier de bonne maman ». Et ça y est, elles vont enfin retrouver Pierrot et le Toine. Donc, c'est parti, petit extrait, et je vous en retouche quelques mots à la fin de la lecture. Donc, on attaque par un chapitre qui s'appelle « Là où il y a des filles amoureuses, il est inutile de verrouiller les portes ». L'armistice était signé depuis plusieurs mois quand nous pûmes enfin nous retrouver vraiment. Il nous avait fallu attendre la démobilisation qui s'est faite classe par classe. Nous étions révoltés de cette absurdité supplémentaire. Il n'y avait plus de combat, nos soldats avaient lutté contre la peur, la fatigue, la mort, mais ils devaient encore se soumettre à cet ordre idiot. L'état-major n'avait aucune, absolument aucune considération pour ses combattants, pour leurs familles. Toine était de la 14 et Pierrot de la 15. Ils avaient réintégré leur régiment, mais à leur demande, nous ne sommes pas allés les voir, parce qu'ils n'auraient pas eu envie de retourner dans leur caserne. Ils savaient qu'alors ils auraient été passibles du peloton d'exécution pour désertion. J'ignore si tu sais à quel point ton papé était antimilitariste, mais l'incompétence des généraux, des maréchaux, pendant et après la guerre, a transformé un brave piou-piou en un rebelle à l'ordre, en un anarchiste, dans toute l'acception noble du terme. Une autre absurdité a conduit à sa démobilisation quelques jours avant celle du Toine. Il a attendu son ami, et c'est ensemble qu'ils ont pris le train pour Nice, où nous nous sommes retrouvés. Ils avaient besoin de cette escale avant de reprendre le cours de leur vie civile. Nathalie reçut le télégramme qui nous donnait rendez-vous Nissa et Civitas Fidelissima. Stop, nous vous y attendons, belle fidèle. Quand nous descendîmes du train, ils nous attendaient sur le quai. Nous nous faisions bousculer par tous ces voyageurs, par les porteurs encombrés de grosses malles. Nous nous faisions bousculer, mais avec bienveillance. Pierrot et Toine portaient encore leur uniforme. Je ne pouvais décoller ma bouche de celle de mon Pierrot. Il en était de même pour Nathalie avec son Toine. Nous rions, nous pleurions comme on respire, et aussitôt après, nous nous embrassions encore. Nathalie et moi découvrîmes cette ville que nos amoureux tenaient à nous faire visiter. qu'elle était belle, qu'elle nous semblait grande, que ses avenues étaient larges. J'avais apporté de quoi manger, mais le Toine tente à nous faire goûter la focaccia, et le clin d'œil qu'il m'adressa en disant « Avec tes provisions, nous n'aurons pas besoin de sortir de la chambre pour le dîner » embrasa nos joues et nos corps. Bien vite, nous quittâmes le front de mer pour aller dans le quartier Saint-Sylvestre où ils avaient loué deux chambres communicantes. Nous étions fous, un peu naïfs, tellement jeunes. La logeuse, une petite vieille, était très souriante, très accueillante et joviale, mais je ne compris pas un traître mot de ce qu'elle nous dit. Quand nous arrivâmes sur le palier devant les deux portes closes, Toine m'expliqua qu'elle avait parlé en italien. Ils avaient loué une chambre pour les demoiselles et une autre pour eux. Elle leur avait expliqué que cette ruse avait fait long feu et qu'ayant connu l'enfer si jeune, ils avaient gagné le droit à un peu de paradis sur cette terre. La vie m'a appris que la compréhension, la tolérance, se trouve souvent là où on s'y attend le moins. Cette vieille femme en était l'illustration parfaite. Nous avons passé 3 jours dans sa petite maison et ces 3 jours marquèrent pour nous quatre le retour à la vie, le début du bonheur. Je redécouvrais le corps de mon Pierrot, qui ne pouvait s'empêcher de caresser, de toucher, d'embrasser le mien. De l'autre côté de la porte, j'entendais le petit rire nerveux et excité de Nathalie. Je sus quand elle découvrit le corps nu de son Toine. Nous en avions souvent parlé durant ces longs mois d'attente. Je lui avais décrit avec force détail à quoi elle devait s'attendre, à quoi ressemblait un sexe d'homme, sa taille, ses reliefs. Mais son cri de surprise ne laissa aucune place au doute. Le Toine riait. C'était un sacré farceur et il aimait plaisanter, taquiner. L'entendre rire, les entendre rire nous déconcentrait et, comme un fait exprès, à chaque baiser un peu intime, à chaque caresse un peu curieuse que nous nous prodiguions, répondait un éclat de rire ou une plaisanterie. Pierrot, amusé, prit sa grosse voix et s'exclama « C'est pas un peu fini ce boucan ?» Et avant que j'aie pu le retenir, se précipita vers la porte et l'ouvrit en grand d'un geste théâtral. Nathalie n'eut pas le temps d'en être surprise que j'arrivais déjà pour la refermer. J'aurais voulu faire les gros yeux ou spiller mon Pierrot, mais nous restâmes figés, comme frappés de catatonie. Les yeux du Toine écarquillés fixant ma toison, les miens tout autant fixant son sexe. Comment aurais-je pu imaginer de telles proportions ? Je marmonnais. Je ne pouvais pas savoir, Nathalie, quand lui commenta « Pour de la blondeur, c'est de la blondeur ». Je me retournai vers Pierrot, lui reprochant de ne pas m'avoir parlé de la particularité anatomique de son ami. « Parce que tu crois que je la connaissais ? Tu crois que je l'avais déjà vue bander ?» Je m'apprêtai à retourner dans notre chambre quand Nathalie s'exclama « Non, reste avec moi !» Interloqué, je constatais l'effet de sa supplique sur les sexes de nos hommes. Il me semblait que nous respirions plus fort, que nos cœurs battaient plus vite, à l'unisson. Je ne savais que faire, confuse de ce désir que je sentais monter en moi. J'avais conscience de transgresser toutes les règles morales que l'on m'avait inculquées, mais peu m'en chalait. Que s'est-il passé dans nos têtes pour que ce soit moi, la plus jeune de cette troupe, moi qui n'avais pas encore fêté mon 18e anniversaire, qui prenne la direction des affaires. Nous ne nous sommes pas posé la question sur le moment, mais par la suite, je me faisais souvent taquiner à ce propos. Nous étions comme les pauvres Anglois face à la hardiesse de Guillaume le Conquérant. Je sais bien qu'il ne voyait aucun rapport entre mes origines et mon assurance ce jour-là, mais sans un soupçon de mauvaise foi, à quoi bon les taquineries ? Je m'assis sur le lit aux côtés de Nathalie, lui pris la main, et de l'autre, invitait Pierrot et le Toine à s'approcher de nous. « Fais comme je fais. » Ne lâchant pas la main de Nathalie, j'attrapai fermement le sexe de Pierrot de mon autre main et entrepris de le sucer comme s'il s'était agi d'un sucre d'orge. Trop surpris de ce que nous leur faisions, Pierrot et le Toine ne laissèrent échapper qu'un seul « Oh !» d'une même voix. Un peu vicieuse, je regardai Nathalie qui fit de même. Nos regards se dirigèrent ensuite vers nos hommes qui n'en revenaient pas. Eux, d'ordinaire si bavards, si promptes à commenter le moindre détail, étaient muets de surprise. Fiers d'avoir pris l'ascendant, nous les léchions avec une avidité, une gourmandise croissante. Je sentais le corps de Pierrot trembler de plaisir. Ses doigts se perdaient dans mes cheveux. « Comme c'est bon !» Nathalie se régalait. Nous nous regardions toujours, complices, coquines, taquines, et commentions à voix haute, conscientes de les trouver davantage. « Alors tu vois, je te l'avais bien dit, ça vaut toutes les friandises du monde, non ?»« Oh oui, il a bon goût, mon Toinou. Au moins que mon Pierrot, j'en suis sûre. Tu déparles la Rosalie. Tiens, goûte. » Avant que quiconque ne comprenne ce qui lui prenait, elle lâcha ma main et offrit le sexe gonflé de son Toinou à ma bouche. Excitée, je le goûtais sous le regard ébahi de nos deux compères. « Alors, il est ben bon, mais je ne saurais dire si elle est meilleure que mon Pierrot. T'en penses quoi ?» Comme elle l'avait fait quelques instants auparavant, je lui offris la verge de mon Pierrot à goûter. Nous passions de l'un à l'autre, leur reprochant de ne pouvoir les départager. « Fada ! Elles ont tourné fada !» furent les premiers mots du Toine, Pierrot se contentant de gémir de plaisir. Je pense que toutes ces craintes accumulées depuis toutes ces années, ces craintes qui disparaissaient comme une digue qui cède, ont libéré les flots de nos désirs, et l'excitation s'en mêlant, nous étions grisés. Une ivresse sensuelle s'était réellement emparée de nous. Nous les sucions, nous les léchions, nous les caressions comme si nos vies en dépendaient. Au plus nous les sentions prêts à défaillir, au plus nous devenions ardentes. Je sentais régulièrement perler sur ma langue les petites gouttes annonciatrices du plaisir prêtes à exploser, et je m'amusais de les soumettre à cette douce torture. Soudain, Pierrot s'exclama « À notre tour maintenant !» et d'un même geste, ils nous renversèrent sur le lit. Mes jambes s'enroulèrent autour de son corps. Il les écarta un peu pour être plus à son aise. Je regardais Nathalie se faire ausculter par le bon docteur Antoine. Elle l'ondulait sous ses doigts, gémissait, le suppliait de la délivrer enfin de ce pucelage qui lui pesait tant. Il me désigna d'un mouvement du menton en lui demandant « C'est ça que tu veux ? Tu veux que je te fasse ce que Pierrot fait à Rosalie ?» J'ondulais comme un serpent sous les coups de boutoir de mon amoureux, qui prenait tout son temps, qui me caressait les seins, s'enfonçait un peu plus quand il se penchait pour m'embrasser. Je croisais le regard de Nathalie et j'y lus la puissance de mon plaisir dans le reflet de ses yeux. « Oh oui, c'est tout ce que je veux !» Alors, le Toine la pénétra, avec force et douceur. Il goûtait chaque instant de cette défloration et tenait à ce que Nathalie grave ses premières sensations dans sa mémoire, qu'elle s'en souvienne à tout jamais. « Ouvre tes yeux, Pitchoun, ouvre tes jolis yeux !» Il avait beau être taquin, farceur, prompt à la plaisanterie, à la grivoiserie, Toine fut très délicat, attentif, quand il dépucela sa Nathalie. Elle gémissait de son accent chantant. « Oh, femme de Dieu, comme c'est bon! Comme c'est bon !» Je l'observais découvrir ce plaisir, et j'en prenais ma part. Au moment où je réalisais que mon Pierrot et le Toine allaient et venaient au même rythme, le soleil s'effaçait doucement pour céder sa place au crépuscule. Je remarquais leurs regards complices, leurs sourires convenus. Un hochement de tête donna le signal. « Tu es bien dans ta Rosalie ? Autant que tu l'es dans la Nathalie ? Je ne crois pas. Moi, je suis au paradis. Oh, Gary, le paradis, c'est dans ma Rosalie. Tiens, puisque tu ne me crois pas. » En riant, mon Pierrot se retira et invita Toine à prendre sa place. Il nous rendait la monnaie de notre pièce et nous l'avions bien cherchée. Je me sentis envahie par ce membre énorme et je vis Nathalie jouir de mon Pierrot. Toine jouait avec mes poils et semblait fasciné par leur blondeur. Je poussai un cri de plaisir animal quand, du bout de son doigt, il caressa mon bouton. Je me sentais palpiter autour de sa verge. « Tu ne mentais pas. Rosalie est encore plus belle quand elle jouit. » Combien de fois échangèrent-ils leur place ? Combien de fois nous firent-ils jouir avant de jouir eux-mêmes ? Je ne saurais le dire, mais l'honneur fut sauf. Mon Pierrot jouit en moi et le Toine dans sa Nathalie. Ça vous paraîtra idiot, mais nous accordions une grande importance à ce détail. Nous mangeâmes les provisions que j'avais apportées pour le déjeuner, et quand mon Pierrot fut rassasié, désaltéré, revigoré, il proposa à Nathalie et à Toine de leur faire visiter notre chambre. « Nous aurons bien le temps de nous reposer quand nous serons de retour au village. » Ce fut dans un sentiment de légèreté, d'amour et de sérénité que nous passâmes notre première nuit ensemble à goûter à ces plaisirs qui allaient devenir notre pain quotidien. La liberté est au-dessus de toutes les richesses. Au matin, quand je me réveillais, nous n'étions que deux dans le lit. Pierrot et Toine avaient eu du mal à s'endormir et, à plusieurs reprises, s'étaient agités dans leur sommeil, sursautant, marmonnant, criant. Nous avions essayé de les rassurer du mieux que nous le pouvions, mais ce ne fut pas facile. Ils revivaient des horreurs dont nous n'avions pas idée. Et puis, les lits étaient trop moelleux après tant d'années d'inconfort. Nathalie dormait profondément. J'avais la bouche sèche et l'envie d'admirer la ville se réveiller avec le soleil. Je descendis du lit, enjambant Pierrot qui dormait recroquevillé par terre. La porte communicante était restée ouverte. J'allais dans l'autre chambre pour enfiler ma robe et me servir un grand verre d'eau que je comptais boire en regardant Nice par la fenêtre. Quand j'entrais dans la chambre, j'y trouvais Toine, une bouteille de vin à la main. Une autre, vide, avait roulé au sol et reposait entre ses pieds. Il n'était pas 7 heures du matin. Il eut un sourire fanfaron que trahissait le désespoir de son regard. Voilà ce que j'ai rapporté du front. Cauchemar, insomnie et alcoolisme. Je m'assis à côté de lui et lui proposai. « Si tu me promets de ne plus boire avant midi, je t'écouterai autant que tu en éprouveras le besoin, jusqu'à ce que tes cauchemars deviennent supportables. » Il aurait pu me dire que ses souvenirs étaient bien trop horribles pour que j'en supporte le récit, mais il fut tellement surpris de ma proposition qu'il n'y pensa pas. Il posa sa tête sur mes cuisses, se recroquevilla, et commença à me raconter ce qui lui interdisait d'être heureux d'en être revenu, de croire à la beauté de la vie, ce qui l'empêchait de trouver le sommeil. Je lui caressais la joue, les paupières. Comment une telle boucherie avait pu être possible ? Il voulut m'en donner son explication, mais il m'avait parlé pendant plus de 2 heures et s'endormit au milieu d'une phrase. Quand Pierrot et Nathalie passèrent la tête par la porte, ils furent étonnés de nous trouver là, Toine endormi sur mes cuisses et moi, le visage inondé de larmes. En voyant les bouteilles par terre, Pierrot comprit. Je ne sais plus comment la décision fut prise, ni même qui en a eu l'idée, mais nous décidâmes que Toine me raconterait ses cauchemars et que Pierrot ferait de même avec Nathalie. Il nous fallut plusieurs années de confidence pour rendre leurs cicatrices moins douloureuses, mais dès le mois suivant, ils purent à nouveau dormir dans un lit sans craindre ces horribles visions qui les hantaient dans leur sommeil. Et voilà, c'était un extrait, un joli extrait du cahier de Bonne Maman. Vous avez eu droit à un chapitre et demi et il n'y a rien là. Donc voilà, les aventures de Bonne Maman. On est au tout début et Rosalie, Nathalie, Pierrot et le Toine ne sont pas au bout de leur découverte de plaisirs multiples et variés. Ce que j'ai bien aimé dans ce texte, c'est aussi ces souvenirs en même temps qui marquent un peu tout le récit de la guerre 14-18 et où ça amène, je trouve... Ça amène un peu plus de profondeur au récit et je trouve ça important. Voilà. Enfin, moi ça m'a vraiment plu qu'il y ait ça et que d'un coup le plaisir soit aussi un moyen de surmonter les cauchemars, un moyen de résilience en fait. Et c'est vrai que chez Françoise Colli, on retrouve souvent ce côté où la sexualité, le plaisir, c'est un moyen de passer par-delà des souffrances et de les dépasser et de juste arriver à être soi-même. Et ben, on retrouve encore une fois cette petite touche Françoise Colli dans le cahier de Bonne Maman. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Françoise Colli, elle a un site, évidemment, aveclamaingauche.com. C'est là que vous pourrez vous offrir, si vous le voulez, le cahier de Bonne Maman, mais aussi des souvenirs de Tata Monique. Et puis, elle est déjà en train d'écrire la troisième partie de cette trilogie qui va s'appeler Chronique matrimoniale. Vous avez plein d'extraits sur son site avec la main gauche. Elle est très généreuse en termes de textes qu'elle offre aux lecteurs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et Françoise Colli, vous pouvez aussi la retrouver sur Twitter et c'est tout, parce qu'avant elle était sur Facebook, mais elle a décidé que Facebook s'appuyait du cul, elle a bien raison, et du coup elle n'y est plus. Donc voilà, et bien écoutez, cette lecture érotique touche à sa fin. Alors évidemment, vous allez retrouver tous les liens vers le site de Françoise Colli, ses réseaux sociaux, etc., etc., sur mon site. Et c'est là aussi que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts des lectures érotiques. Mon site, je vous le rappelle, c'est lec.charlie-liveshow.com. Et bien voilà, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.